sud.
Arnache tes mots de créneau, ouais. DJ littéraire pour lecture collective.
Plus vous retrouvez seul face à vos livres, contactez.
Lu et approuvé. La bibliothèque sonore qui compte et raconte des histoires à vivre debout et dormir réveillé. Pas celle que quelques guignols nous racontent à longueur de journée, non. On n'en veut pas et on leur laissera pas le dernier mot.
Chaque semaine sur Canal Sud, nous vous lirons tout haut ce que les gens lisent tout bas.
Bonsoir, bienvenue dans Lu et Approuvé. Ce soir, nous vous lirons un livre dont nous ne comprenons pas le titre. Paru à une maison d'édition, dans une maison d'édition parisienne qui s'appelle L'Altiplano. Nous vous conseillons d'ailleurs fortement d'aller sur leur site internet puisqu'ils publient tous leurs livres gratuitement en PDF, donc lisibles sur internet gratuitement. En route vers le clochard.
En ce temps-là, je lisais Harry Potter, mais j'avais des pensées d'adulte. On m'avait mis un pyjama bleu pour m'en dissuader, et j'admets volontiers que j'avais l'air d'un con. On y réfléchissait à deux fois avant d'attirer l'attention sur son cadavre. J'étais allée voir la chef pour lui expliquer que le jour où je voudrais en finir, je viendrais m'égorger devant elle pour qu'elle puisse constater, dans des conditions quasi expérimentales, que le bleu et la mort se marient harmonieusement. Ça l'avait glacée. 30 minutes plus tard, on me réhabilita dans mes vêtements. Mais c'était trop tard. Je l'avais déjà enfilé, leur foutu déguisement, et je n'avais pas du tout l'optimisme de me changer deux fois dans la journée. Le soir venu, j'ai découvert qu'il était plus confortable de vivre le jour en pyjama que de dormir la nuit en jean. Je me suis mis bien à l'aise, je me suis mis bien à l'aimer finalement, et la vie s'est étirée ainsi, de bleu. Je l'ai même conservé après l'hôpital. Je pressentais que c'était un costard pour la vie. Alors, quitte à l'assumer jusqu'au bout, je l'ai planqué au fond de mon sac le jour de la sortie. En temps normal, je n'aurais pas eu le droit, mais cela faisait longtemps que j'avais été éjectée du temps normal. D'ailleurs, c'était mon grand regret dans la vie. Nous avons fait les comptes avec l'infirmière. Ça me faisait tout drôle. Nous sortions de 3 mois de vie commune, et voilà qu'elle me tendait mon rasoir. C'est pas des façons non plus. Je l'aurais volontiers tassé au fond de mon sac, elle aussi, pour me sentir plus léger, parce que pour moi, c'était réellement une rupture. Mais elle s'en foutait. Elle s'en foutait avec ostentation. Elle n'était pas du genre à laisser refroidir son lit. « Dépêche-toi de faire tes bagages !» qu'elle m'engueulait. « Je dois mettre tes draps propres pour ton remplaçant. » C'était ignoble. C'était ignoble, vraiment. Elle s'est mise à l'échanger comme ça devant moi pour le suivant, un type qui attendait sur le seuil de la porte. On le sentait vif, il avait déjà dégainé ses chaussons. J'ai filé pour pas voir le reste, mais auparavant, elle m'avait tendu mes rasoirs en relisant la zomtis. Elle possédait une connaissance épatante des carotides. Il faut se méfier des femmes à bique. Je lui ai donc fauché son pyjama en hochant la tête pour montrer que j'avais bien pigé. Nous étions quittes. Dans le couloir qui menait à la chambre, l'infirmière m'a mis en garde. Vous allez voir, il n'est pas méchant du tout. Et elle avait complètement raison. Il avait une tête à vous faire partir en courant. Il était planté dans son fauteuil, un peu plus jeune que moi, mais bien implanté déjà dans la psychiatrie et surtout beaucoup plus poilu. Il portait des favoris. Je me suis demandé qui avait eu le mauvais goût de l'affubler ainsi, comme s'il n'avait pas suffisamment d'atouts déjà pour plébisciter les regards inquiets. Ça lui donnait un petit air de Jack Nicholson, version loup-garou. En moins sexy, certes, mais dans le lit d'à côté néanmoins, ce qui laissait des ouvertures. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne possédait plus les aptitudes pour effectuer ce genre de choix esthétique. Quelqu'un lui avait collé ses favoris sur la gueule. « Vous allez voir, » continuait l'infirmière, « il parle pas beaucoup, mais il est comme vous et moi. C'est juste qu'il ne parle plus beaucoup depuis quelque temps, mais il vous comprend parfaitement. » Pourquoi parle-t-elle comme s'il n'était pas là, alors ? Je trouvais qu'elle faisait un usage approximatif du collectif, un usage daltonien. Elle mettait sa blouse blanche et mon pyjama bleu dans le même sac. Dijon. Bienvenue dans le troisième millénaire. Le président des États-Unis, George W. Bush, a annoncé la couleur. Il sera bleu. Ce sera le millénaire du cerveau. Mange-t-il des cornichons ? Lorsque je bouge à droite de la chambre, les yeux de loup-garou me suivent à droite de la chambre. Lorsque je bouge à gauche, ses yeux me suivent à gauche. Il me prend pour une balle de tennis, mais il y met plus d'hostilité. J'ose plus bouger. Mais même quand je bouge pas, il me fixe. Alors autant bouger en espérant le semer. Sa moelle épinière semble avoir décidé que dans toute la pièce, c'était moi le plus captivant. Pourtant, il y a d'autres trucs à trucider dans notre chambre. Il y a une table de nuit qui vaut le coup, il y a deux lits qui méritent qu'on s'y repose. Il y a même un tableau très valable, affiché au mur. C'est sympa aussi les tableaux à épier, pas vous ? Ils sont habitués, on peut les regarder d'un air qui veut les bouffer. Des fois même, c'est fait pour. Des natures mortes. Et puis, j'ai noté la présence d'une porte d'entrée. On fait difficilement plus captivant qu'une porte d'entrée, je trouve. C'est par là qu'apparaissent les nouveautés, des pyjamas inédits et des infirmières toutes dodues. Moi, j'adore les portes d'entrée. C'est ma sortie de secours s'ils me sautent dessus. J'aurais volontiers réparti la vedette sur les autres, mais non. Loup-garou a décrété que j'étais sa star. Je suis la star de Loup-garou à seulement 24 ans. Il me fusille sans faire de grâce. J'ai essayé de lui parler deux ou trois fois reprises. En faisant gaffe à ne pas le froisser, ben, toutefois. Par exemple, le premier soir, au moment d'éteindre la lumière dans l'espoir de le semer dans le noir, je lui ai demandé si ça ne le dérangeait pas dans les yeux. J'avais pas mal d'appréhension moi-même. C'était notre nuit de noces. Je voulais son accord avant de nous plonger dans la terreur. Ne pas le brusquer surtout. J'étais descendue dans le hall pour lui acheter des doigts coupe-fins en signe de sympathie. Je redoutais que ce soit pas suffisant pour lui couper l'appétit, mais je pouvais quand même pas remonter avec un kilo de Twix, non ? Il aurait trouvé sa louche. Pareil pour la salle de bain. Je lui demande si ça le dérange pas que j'y aille quelques minutes. Il me transperce fixement. J'ai l'impression qu'il me hait. Alors je me repasse sans cesse la captatio suate benevolentia de l'infirmière. Il est pas méchant. Il est comme vous et elle. Mais surtout pas comme moi. Toutes les vies valent la peine d'être vécues. Je cite souvent l'exemple de loup-garou pour illustrer cette vérité. Au bout de plusieurs jours, je me suis habituée. Je ne fais plus trop attention. J'ai vaincu l'angoisse. Je me suis assurée qu'il était bien mort en dépit des yeux qui goinfrent encore. Je l'ai poussé dans ses retranchements pour être tout à fait sûre. Je suis allée jusqu'à jouer à « Je te tiens par la barbichette » mais à l'horizontale avec ses favoris. Ça lui donne un air de clown propice à ma détente. Je me sens mieux, il bronche pas. On pourrait le mettre dans une guérite devant un palais de Buckingham ou faire le pierrot sur une croisette de Cannes le temps d'un festival. On peut entreposer ses vêtements sur lui, c'est pas pour autant qu'il vous assassinera. C'est un loup-garou multifonctionnel et pacifique. En ce temps-là, je me souviens, je lui disais souvent le soir au moment d'éteindre la lumière. « Hey Jack, tu t'es gouré de film ? On n'est pas chez les garous ici, on est chez les coucous. » Et il voulait me bouffer conformément à son état. Un insatiable bouffeur de moi-même, c'était. J'achetais le journal de temps en temps, mais quelqu'un me le piquait, je ne sais pas qui. Je soupçonne une infirmière, une rousse qui avait cherché à me psychanalyser dès le premier jour. Le problème, c'est qu'on ne peut pas fermer la porte à clé. Et depuis que je le laisse sur les genoux de loup-garou, on ne me le pique plus. J'ai redonné tout son sens d'épouvantail à la vie du garou. Il n'y a pas de vie inutile pour tout le monde. Quand j'étais gamin et que je me mettais en rogne, je prenais des décisions radicales, comme faire la tronche à mon frangin un mois non-stop pour bien le punir. C'était mérité, il faut le dire. J'étais extrémiste en théorie, mais sans jamais aller jusqu'au bout dans l'application. J'étais d'humeur trop volatile, et en plus cet enfoiré de frangin essayait de m'attraper par le menton pour jouer à « je te tiens par la barbichette », comme si le contexte s'y prêtait. J'ai jamais réussi à tenir plus de deux heures. Et pour moi, ça reste encore aujourd'hui un souvenir cuisant, une humiliation totale. C'était vraiment un gros enfoiré de me faire le coup de la barbichette. Ça devrait être interdit quand on fait la gueule. Je m'accrochais au souvenir des crasses qu'il m'avait faites, mais c'était comme si on me chatouillait. La bonne humeur revenait, irrépressible, sur fond d'humiliation. Ça me laisse rêveur quand j'y repense, cette bonne humeur pathologique. Je manquais de consistance dans l'humeur de chien à la différence de loup-garou. Peut-être que je l'aurais admiré si j'avais fait sa connaissance à l'époque. J'aurais envié sa force de caractère, un chrono à la main, carrément épaté. Où j'ai le plus chialé de ma vie. Je me souviens bien, j'étais assis à cette table. Il y avait un livre posé là avec des photos dessus, et moi qui chialais tout au sommet. C'était une salle de séjour avec une véranda. C'était la piste de domino, c'était le terrain de tricot. Deux vieilles s'exerçaient derrière moi, elles profitaient de cette belle journée de printemps pour enfiler sereinement les mailles, se dégourdir un peu les phalanges. Leur virtuosité technique ne laissait pas transparaître la moindre angoisse existentielle. Dehors, les arbres étaient en fleurs, mais toujours pas de pissenlit. Une infirmière est venue se poster près de moi et m'a demandé « Mais qu'est-ce que vous avez ?» tout en se penchant sur mon livre, des fois que ce serait pas une photo d'oignon qu'on épluche. « Mais qu'est-ce que vous avez ?» Rien, rien du tout, j'avais juste 25 ans, mais j'ai pas réussi à lui dire. Si bien qu'elle s'est peut-être figurée des trucs graves. Elle est restée debout deux minutes à mes côtés, majordome affable, mais comme elle n'avait pas de flingue à me proposer, elle a dû se sentir superflue. Alors elle s'est éloignée, pudiquement, pour que je puisse chialer tout à mon aise. Avec la flotte salée dans mes yeux, je distinguais à peine les images. J'avais complètement oublié de prendre mes lunettes de noyade. Je m'accrochais du regard, pourtant. Je voulais pas couler tout de suite, là, maintenant, en plein sur une table. Fêter mon premier quart de siècle en maison de retraite, j'étais émue, cela se comprend. Je bougeais les épaules sans faire de bruit. Je savais chialer avec classe, en manifestant, spontanément, une rare maîtrise des deltoïdes. Nietzsche disait que tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Je ne partage pas sa passion du lyrisme, et moi, ce qui ne me tue pas me laisse en vie. J'ai 25 ans depuis quelques jours. On se vide de son temps, et c'est moins plaisant encore de le saigner dans l'ennui. Il fait beau, le jardin est magnifique. Je ne le ressens pas comme tel, mais supposons qu'il soit magnifique, cela ne me dérange pas. J'ai une grande tolérance pour les jugements horticoles, même dogmatiques. L'infirmière m'a demandé de faire des efforts pour brasser des idées sympas, et voici le résultat. Tous ces pétales autour de moi, je suis au paradis des dépressifs. Les pétales sont des pétards ralentis et parfumés, tout doux et colorés, bourrés de poudre pollen. Des pétards en dépression, et ça leur va plutôt bien, à eux. Je m'arrête. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas jouer au domino avec nous ? C'est une voix de femelle. Elle s'adresse à moi très sérieusement. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de l'humour. Cette histoire de domino doit être prise au pied de la lettre. Tout petit, déjà, les dominos me gonflaient abusivement. Un sport sinistre de maison de retraite. On m'avait dépeint la clinique comme une sorte de havre. « Vous allez voir là-bas, c'est pas pareil », me disait la psychiatre de l'instant. Cela ne faisait pas longtemps qu'elle me suivait, mais elle cherchait déjà à se débarrasser de moi. À ailleurs était meilleur dans sa bouche. Il faut dire que j'étais dans un état de gâchette émotionnelle extrême depuis plusieurs semaines. Les psychiatres pressentaient la boulette russe. J'en avais trop chaud pour la patate, si bien que ailleurs était meilleur. Ils étaient très louangeurs avec autrui. Je veux dire quiconque. Ils étaient très louangeurs avec quiconque. Ils voulaient bien me refiler sans problème. Je pense donc que mon arrivée dans ce service fut le résultat d'une erreur collective due au stress dont j'irradiais mon entourage, par le simple geste de me gratter la paume d'un air soucieux et moite. C'était donc ça, le paradis. Là-bas, c'est pas pareil, on m'avait dit, comme si d'être admis là-bas constituait en soi un pas décisif sur le chemin de ma guérison. J'allais franchir un cap. Là-bas n'est pas ici, un grand soulagement de ceux qui restent. J'étais le seul individu de sexe mâle et je vivais au milieu de 70 femmes, selon mes estimations, 70 ménopauses domino entrecroisées de tricots. Un amateur de vieilles cellules aurait adoré vivre au milieu de ces étonnantes bicoques organiques. Le vivant est capable de figures de style complètement bariolées, surtout la gérontologie. Je devais être au paradis des martyrs, j'imagine, avec mes 70 chastes promises, un vrai fanatique du martyr, moi, au point d'omettre me départir de mes souffrances avec mes godasses au seuil de ce lieu saint. Je m'étais sans doute pris trop tard. Il y a eu tellement des martyrs de Coran ces derniers temps qu'ils ont épuisé les capacités de renouvellement du paradis en virginité. Je suis pour l'installation d'un numerus clausus afin d'épargner les arnaques en mon genre. Venez, mes bien chers frères de martyrs, venez vous aussi arpenter ces branlants échafaudages moléculaires, ces fantasques amas biologiques, ces ménopauses juvéniles à jamais. Les vagins sont des fourreaux, c'est le latin qu'ils pensent. Les infirmières revendiquaient également leur spécificité d'ange. Vous allez voir, ici c'est comme ailleurs. Ça donnait envie de se flinguer sur place pour leur conférer la modestie, pour leur démontrer que j'étais partout chez moi, et que leurs dominos ne changeaient pas grand-chose au fond de mon cerveau. J'en ai parcouru tellement des ailleurs, j'ai exploré l'hypothèse environnementale à fond. Je suis allée en Tunisie, maté la Coupe d'Europe sur un lit de djerba, j'ai vadrouillé le Brésil où ma vie ne tenait qu'à un string, j'ai même atterri en Inde pour caresser les klebs pouilleux. J'ai exploré l'hypothèse environnementale en long, en large et de traviole, et j'en ai conclu que partout c'est chez moi. Partout baigne dans mon liquide céphalo-rachidien. Elle est justifiée leur étoile. Ils pouvaient garder l'espoir d'un ailleurs, d'un au-delà de la clôture. Ils étaient dans le camp, tandis que j'étais moi le camp. Je trimballais ma stupeur sur mon dos partout où j'allais ramper. Moi, la torture, il n'aurait pas fallu m'aguicher avec ces barbelés électrifiés, parce que je me serais alors lové dedans. C'est un cadeau à pas nous faire. Elle est méritée leur étoile pour le confort électrique, pour le confort de ne pas avoir à se tracasser pour les modalités techniques. La littérature me faisait vomir. J'étais restée 2 ou 3 jours à Goa. La littérature me dégoûtait salement. C'est là même que j'avais entamé les aventures du jeune sorcier Potter. Je garde un grand souvenir de Goa. Il y avait des églises brésiliennes, Harry Potter, des zombies faméliques en turban. C'était le début de la mousson. C'était la mousson en dehors et en dedans de mes intestins. Ça faisait au moins 2 bonnes raisons de rester cloîtrée dans mon bungalow. Alors j'étais allée réclamer un super balai de chiottes magiques indiens pour mes reproductions des matchs de Quidditch Tourista. Il connaissait les règles, le mec. Il m'a filé un seau sans que je le demande. C'était Goa. Sans chasse d'eau, je regrettais. On m'a fait comprendre que si je veux être acceptée dans cet établissement, je dois me plier à 2 ou 3 règles. Est-ce là réellement ma volonté? Je dois notamment prendre part à 2 ateliers de mon choix parmi la dizaine qui me sont proposés. Il y a de l'art-thérapie, de la cuisinothérapie, ou culinarothérapie, je ne sais plus trop. Aussi des groupes de parole thérapeutiques, etc. Au bout de 3 jours, je n'arrivais plus très bien à distinguer le thérapeutique du non-thérapeutique. J'avais l'impression de bouffer des patates thérapeutiques à midi. D'ailleurs, cette immersion dans la thérapie avait une bonne influence sur mon état d'esprit lexical, comme put le constater le personnel soignant. J'avais déjà beaucoup moins envie de me flinguer. Je voulais désormais m'administrer une balle thérapeutique. Les infirmières n'aimaient pas trop mon humour, j'ai remarqué. On ne plaisante pas avec ces choses-là, qu'elles ronchonnaient. J'étais leur matériau de travail après tout, ça se comprend leur réaction. J'étais du genre à leur foutre au chômage technique avec mes blagues à une balle. Une noyade dans le suffixe, c'est tout ce qu'ils avaient à me proposer. Du coup, ça me donnait pas trop envie de m'attarder. Mais pour aller où? Étant donné qu'on m'avait juré que c'était là ce qui se faisait de mieux en psychiatrie et qu'il me semblait avoir effectivement fait le tour des molécules, ça me donnait pas trop envie de m'attarder dans mon corps non plus. Je voulais foutre le camp et partout, et surtout, surtout de moi-même. Comme je tardais à faire mon choix dans cet embarras de thérapie, on m'a collé d'office en musicothérapie et en groupe de parole. « On a pensé que c'est ce qui vous convient le mieux », m'a-t-on dit. Une patiente m'explique que ça convient pile-poil aussi au musicothérapeute. Il a besoin d'atteindre un quota de patients pour justifier son existence budgétaire. S'il y a bien un papier où il importe d'exister dans une vie administrative, c'est le budget. Êtes-vous budgété ? Convergence d'intérêts ? Aucune vie n'est inutile pour tout le monde. Musicothérapie, dépressif en riff. Je fais des riffs sur mon xylophone, et sur ma droite, une mémère plisse les yeux, comme pénétrée par mon instrument. Mais qu'est-ce que je fous là, bordel ? Comment j'ai pu atterrir là ? On est quatre dans cet atelier. Deux mémères, un loup-garou et moi, le dépressif en riff. Je fais vibrer des hordes de bigoudis sur la tête de ma voisine. Elle prend un air étonné.
Ah bon ? Vous n'avez jamais fait de musique ?
Elle veut me faire un compliment, ça part plutôt d'une bonne intention, mais j'ai quand même envie de lui suggérer d'aller se faire mettre avec son tam-tam. Restons calmes. Ce qui m'étonne le plus, c'est de voir le loup-garou en face de moi. C'est la première fois que je le croise en dehors de notre fosse nocturne. J'imaginais pas qu'il soit transplantable. Ça donne un look saugrenu à cet atelier. J'aime bien. J'ai l'impression qu'on a déposé ma baignoire sur une chaise en face de moi et qu'on lui a mis un xylophone sur les genoux à elle aussi. Mais je dis rien. Les autres se sont aperçus de rien, on dirait. Il faut pas compter sur moi pour trahir le garou. J'improvise avec mon talent inné. On a tous rêvé dans notre adolescence d'éclore des riffs de poules qui fassent triduler des hordes de clitoris. Et me voilà ding-dong, riffant pour des bigoudis de ma groupie. Elle a pas l'air déprimée du tout avec sa tête qui dodeline. Elle glousse toute contente comme en colonie de vacances. Le midi, en sortant de table, elle commente la qualité de la bouffe avec deux autres ménopauses. Il paraît que c'est pas valable comme l'année dernière, mais l'an prochain, le cuistot de l'an passé revient. Elle a bon espoir. Elle entrevoit alors le bout du tunnel diététique. Une maison de repos avec des activités tropicales, une existence de mémère bien remplie. À quoi ça rime ? Ils espèrent me guérir avec leur xylophone ? Je riffe tel Kurt ding-dong sur mon xylophone. Je riffe tel Kurt bang-bang en attendant le final. Peu après mon arrivée, une fille est venue me voir. Amélie. J'étais assise dans le canapé de la salle de télé à feuilleter le journal. C'est mon exercice intellectuel quotidien, la lecture du Parisien. Je préférais qu'on évite de me déranger, mais Amélie était toute nouvelle, elle ignorait donc mes contenus. Nous sommes tous passés par cet état de nouveauté, un jour ou l'autre dans notre vie, je comprenais. Ce n'est pas un reproche à ce stade de mon récit.
« C'est à combien tième à toi ?»
qu'elle m'a demandé. « Ma combien tième quoi, moi ?» J'ai adopté un air approprié, quasi imperceptible, qui lui a pourtant fait comprendre du premier coup que ce n'était pas mon cas. Il suffit de déplacer des petits bouts d'expression pour émouvoir les gens.
« Eh bien, c'est à combien tième, TS ? Moi, c'est ma 17e. »
Et elle m'a tendu son poignet qu'elle portait, où elle portait un petit pansement en guise d'attestation. Elle me prenait pour un videur à qui on montre son tampon pour rentrer dans la vie après être allé chercher son briquet dans la voiture. Comment peut-on tenter 17 fois de se suicider ? Est-ce qu'elle comptait les fois où elle traversait hors les clous ? Comment peut-on se planter autant et éprouver le besoin de s'en vanter ? 17. C'était un chiffre absurde.
J'ai failli le lui dire. Refais tes calculs, petite, j'ai failli lui dire. Tu t'es gourée dans les signes ou t'as oublié une virgule. Elle me regardait, toute fière, comme un petit vieux poilu qui flageole sous les médailles. Et moi, je dois dire que je m'en foutais tout autant qu'un 11 novembre. Si c'est pas moi encore. Par la suite, j'en ai rencontré d'autres qui s'enorgueillissaient, comme elle, de leur nullité dans la discipline de prédilection, la TS. Elle pratiquait le suicide à grande échelle, du haut de son escabeau. Ça justifie à son recours des abréviations empruntées aux statistiques, et je suis sûre que parmi eux, certains sont passés par le bac. Alors ? Insistait Amélie. Moi, j'étais à zéro tentative. Je le suis toujours, d'ailleurs, puisque je vous parle. Et si je dis ça, c'est pas pour me vanter, mais je sens que j'ai une espèce de talent génétique pour le suicide. Alors ça sert à rien de m'entraîner trop tôt de peur de m'en mordre les doigts par la suite. Dans les mois qui ont suivi, on m'a lancé comme ça des défis de couleur, à deux ou trois reprises, avec plus ou moins d'agressivité. Fais voir ton bleu ? Qu'on me disait, et l'on venait me coller sa manche contre la mienne pour comparer les nuances. Pour Amélie, je sais que ça partait d'un bon sentiment à la base. C'est du moins ainsi que je l'interprète, rétrospectivement, à la lumière de deux ou trois fois où elle a essayé de me violer dans les coins, lorsque les infirmières avaient le dos tourné. Les médecins non plus n'avaient pas l'air trop inquiets pour elle. Cette serial self-killer avait planté sa tente dans le voisinage immédiat de la mort, un peu à la manière des poissons pilotes. C'est pas elle qui se ferait bouffer. Voilà. Je tenais à vous dépeindre cette petite introduction d'Amélie. C'est le genre d'emmerdeuse avec qui j'ai vécu durant 3 mois. Prenons Cécile, par exemple. Elle n'a pas encore le diplôme, mais elle emporte déjà la blouse. Et personnellement, j'estime que c'est la blouse qui fait l'infirmière et non le diplôme. Cécile est étudiante en seconde année d'IFSI. C'est un inhibiteur féminin sélectif de la recapture de la sérotonine. Une jolie protéine harmonieusement repliée sur elle-même aux bons endroits Wonderbras. Elle a une cote du tonnerre auprès des petits vieux qui goûtent tout particulièrement quand c'est elle qui la torche. Elle suit ses cours dans un bâtiment à 100 mètres de là et de temps en temps elle fait son stage ici. C'est une filière intégrée. Le site de formation se trouve directement sur le site de production, ce qui lui permet de faire l'impasse sur le métro et donc l'économie de patients supplémentaires. Un jour, elle est venue me voir avec un tas de feuilles. C'était des questions, des centaines de questions qui devaient permettre de poser un diagnostic. Ils n'ont pas encore très bien défini les pathologies, mais ils doivent plus être loin, j'imagine. Les questionnaires touchent au but, on croirait. Vous me les rendrez la prochaine fois ? M'a-t-elle dit. C'est pas urgent, urgent. Elle est coquette, Cécile. On sent bien tout de suite qu'elle est coquette, non ? En tout cas, moi, je trouve. J'ai regardé tout ça à mon aise, comme elle me l'avait conseillé, une fois son absence retrouvée. Observer les autres malades, c'est intéressant, mais ça m'occupait rarement toute une journée. Tous ne disposaient pas des ressources d'un Marcel. Je lisais également les pages de sport de Parisien. Je crois l'avoir déjà mentionné, mais le seul journal blanc-bleu que nous recevions. J'avais d'ailleurs protesté auprès de la direction, mais on m'avait répondu que j'étais pas tout seul et qu'il fallait trouver un compromis. Faut croire que c'était moi-même en personne, le con si promis, la connerie messiatique. Moi, je réclamais l'équipe, or j'étais obligée d'aller l'acheter au relais de l'hôpital pour pouvoir m'assurer qu'ils avaient bien les mêmes classements dans le Parisien. Ça collait presque toujours. Ils étaient attentifs, eux aussi. Des journalistes scrupuleux, impeccables, tels qu'on en a créé dans mon école. Ils devaient avoir leur rédaction dans un hôpital quelque part, je suppose. On avait mis un relais dans le nôtre, comme dans une gare, peut-être pour nous rassurer à travers la symbolique du passage. Nous rappeler que la vie n'est qu'un passage était une excellente idée, parce que personnellement, ça m'aurait fait mal au ventre de savoir que ça durait une éternité ou deux. Sainte-Anne n'était donc qu'un passage, fallait-il en déduire. Mais il y a d'autres endroits qu'on pourrait classer dans cette catégorie. Au fond, des relais, on pourrait en mettre un peu partout si c'était juste une question de symbole, n'est-ce pas ? D'autant que ça ferait plaisir aux actionnaires. Je faisais des nuits de 18 heures. Les journées ne me paraissaient pas trop longues ainsi. Vous allez voir. voir, monsieur Riwal. C'est un excitant, qu'elle me disait l'autre infirmière. Je transpirais dans mon sommeil, et lorsque je me réveillais, il faisait encore nuit. Nous étions dans les 6 heures du matin à vue de nez. C'était d'ailleurs exact d'un point de vue boréal. 4 heures plus tard, extinction des lumières. Je menais une vie de lapon, à la différence qu'on avait eu la clémence de me castrer. C'est tout ce que j'ai vu de monsieur Riwal. On devrait leur mettre des cours de dégustation de pilules pour qu'elles sachent un peu, elles aussi, les tourments de la constipation. Ça me rendait dingue de dormir 18 heures d'affilée. J'avais 25 ans, je passais ma vie à dormir. Ça me rendait dingue. Encore plus dingue que d'origine. Ça me rend dingue, bordel. Encore plus dingue qu'à l'authentique. Je ne veux pas dormir ma vie. Les semaines passaient, j'engrangeais les rêves et je les foutais à la corbeille au petit matin vers 18 heures. Les infirmières savouraient bien mon sommeil, elles, parce que au moins lorsque je dormais, je ne les faisais pas chier. J'avais quand même plus de mal dans mon sommeil, malgré toute ma bonne volonté d'emmerder du peuple. C'était plus ergonomique pour elles les manteaux allongés. C'est souvent comme ça avec les crazy sitters. Ensuite, elles font rentrer l'amant en douce pour faire des choses tout azimut. Je dis rien, mais je considère que la vie à cet âge-là, elle n'est pas faite pour dormir ni pour crever. Elle est faite pour baiser justement à cet âge-là. Et je vais partir au Brésil dans pas longtemps pour rattraper le retard. J'aurais dû baiser tous les jours à cet âge-là. Là-dessus, je n'ai pas peur d'être dogmatique et c'est personne qui m'empêchera de le calmer. Mes nuits lapones, c'était la mort en pointillé, avec ce qu'il faut de réveil pour la constater. J'aurais préféré une extinction de conscience définitive, sans les repas en barquette et les pilules jaunes ou mauves. « Vous allez voir, monsieur Riwal ?» s'entichait l'autre abruti avec ces médicaments-là, avec ce médicament-là, vous devriez avoir moins de sommeil, déjà. Ce sera plus confortable, vous allez voir. » Elle n'avait d'ailleurs pas complètement déjà tort concernant la première partie de la prophétie. C'est bien simple, j'avais désormais moins sommeil que l'usine Renault de Douai, et ses 38 et ses 3-8 cumulés sur ma seule personne. C'était bien mieux déjà, je confirme. Et ça aurait été définitivement super si l'on m'avait dispensé de fatigue par la même occasion, puisqu'il n'était plus question que je récupère. On peut donc survivre avec 2 heures de sommeil quotidien. C'est donc des vrais skippers, les fameux à la sur France 3. Je faisais des stocks d'épuisement en prévision de ma prochaine hibernation. Je les organisais par brûlés touffus, disposés en schéma d'irrigation lacrymale autour des yeux. Pourquoi faut-il qu'elles sentent à cela, les rides, spécialement dans les orbites? Ma face prenait un profil égyptien avec ses 2 oasis de vieillesse vues du Yanartus. Je pressentais la mort, et cela m'attristait, soit dit en passant. Je voulais pourtant éviter de faire chier les gens avec mon sale égoïsme. Je pris le petit questionnaire de Cécile assez à cœur, dans la perspective de sa blouse blanche. C'était comme dans les magazines, on pouvait choisir le genre de taré qui nous agréait le mieux. Mes goûts personnels me poussaient à des traitements dynamisants. Je fuyais les neuroleptiques. Par exemple, si la question c'était... « Vous mettez-vous souvent en colère ?»« Souvent, de temps en temps, jamais. » Il fallait cocher « jamais », afin qu'il vous donne des pilules qui vous mettent en colère de temps en temps, parce qu'il n'y a rien de plus sain que de se foutre en rogne une fois de temps en temps, et que moi, ça n'avait pas arrivé depuis 3 ou 4 ans de tout casser dans les parages. Je posais Loup-Garou sur la chaise près de moi. Je lui lisais les questionnaires pour voir ce que ça donnerait le test de personnalité sur lui. Sur lui, ça donnait tout à fait l'inverse de moi. Ça donnait toujours, car il souhaitait rester bien calme avec des neuroleptiques. Tout d'où le garou. Je me demandais s'il appréciait les formes de Cécile autant que les petits vieux de l'étage. C'est elle qui venait lui faire sa toilette. Ils se retiraient tous les deux dans la salle de bain. J'entendais des râles de plaisir du jet d'eau au fond de la baignoire et tout se terminait dans un cri orgasmique du robinet mal lubrifié. Ça n'avait pas l'air de l'effrayer trop, de se retrouver en tête-à-tête avec le garou, poilu au fond d'une baignoire. Il avait atteint l'ataraxie dont parlent les philosophes, la vraie, celle du chou-fleur léopard. Je voulais tellement me flinguer certains jours, mais sans le savoir assez pour faire preuve d'un minimum d'efficacité, qu'il m'arrivait de l'envier malgré tout. Le questionnaire de Cécile comportait 600 questions. C'est un peu court pour résumer une personne. Du coup, je me répandais au dos de la feuille. Je me lançais dans des subtilités. Je n'avais que ça à foutre de toute manière, la subtilité, contrairement au correcteur. suis hélas incapable d'être subtil en 600 fois d'affilée. Aussi, lorsque Cécile me demanda d'une voix enjouée si le questionnaire m'avait plu, j'ai donné un petit menton d'approbation en direction de la corbeille. Ça voulait pas dire que je ne l'avais pas trouvé intéressant, mais je me lassais des croix à la fin. C'est mon gros défaut dans les questionnaires. Elle me fit d'abord part de sa déception, d'autant que c'était un exercice évalué, comme elle me l'avoua d'une mine dramatique. C'est drôle, elle semblait penser réellement que j'allais m'apitoyer. Son attitude, je nous revois encore, m'avait sincèrement surpris. Vraiment, oui, j'avais été surpris par son intonation. Je la mettais simplement dans les conditions réelles d'avoir un zéro. Si moi je crevais, elle pouvait bien se faire tuer par ses parents de son côté, non ? C'était du perdant-perdant. Et encore, je trouvais qu'elle restait gagnante dans l'histoire. Il ne s'agissait en somme que d'un petit rôle secondaire dans mon énorme catastrophe personnelle. Finalement, c'est tout à son honneur. Elle laissa tomber relativement vite. D'autres infirmières se montrèrent moins lucides. Je m'assieds. Je me pose sur le fauteuil rouge de la salle de séjour et j'écoute. La pièce n'est pas sombre absolument. Il reste assez de clarté pour épier son imagination à l'œuvre dans les contours. Un lampadaire dehors, rancunier juste devant la fenêtre, déverse sa lumière pisseuse jusque sur mes pieds. Il est bien vengé des kleps ainsi, le salaud sur ma pomme. La nuit, quand tout le monde dort, moi je m'assieds et j'écoute. Les talons aiguilles tricotent les pavés en éclatant d'un fou rire prémonitoire, direction la butte aux cailles, ses coups de rein fameux. Je suinte, ma peau brille. Fauteuil, petit fauteuil adoré, tout rouge d'amour à baiser mon derrière. La nuit, quand tout le monde danse, moi je m'assieds et j'écoute. De toutes mes forces j'écoute, tellement je voudrais les entendre, les molécules, juste un peu se mettre en branle. Ça me dissuaderait peut-être de chialer, autant recroqueviller tout autour de mes genoux pour des huis clos de désespoir. Il faudrait me tuer pour que je les montre alors, mes rotules, ou me chatouiller un minimum. De toutes mes forces, je guette. On peut alors entendre, au lieu des molécules, dans ces interminables nuits saturées d'orgasme, les inaudibles agonies des mourants. Ils fondent ces boucans dans mon crâne à moi, en remerciement sans doute de leur témoigner cette grâce de crever de concert. À cet âge, chuchote-t-il, c'est bien aimable, la compagnie. Le front plaqué contre la vitre glaciale pour m'engourdir l'encéphale. Vers 3 heures du matin, le lampadaire éclaire, le bitume gît, les barrières barrent, le trottoir longe. C'est à peine si l'on l'entend jusqu'à l'unisson. Les feux du carrefour croisent leur permission. C'est la rue de la Glacière, me dis-je, m'efforçant de mesurer la portée de cette jeune affirmation. Aucun doute, je reste parfaitement connecté à notre salade sensorielle, notre patrimoine commun du cerveau humain. Vers 5 heures du matin, des petits bonhommes verts par la gauche, des martiens à 3 pattes, défilent sous les fenêtres. Ils paradent autour d'une soucoupe à roulettes qui crache des jets d'eau tout en émettant des sifflements aigus. Selon toute vraisemblance, ces martiens-là sont originaires de Bamako, de Dakar, voire de Lomé. On les a naturalisés, propreté de Paris. Il fut une nuit, je ne suis pas prêt de l'oublier, où j'en vis un d'albinos qui s'était joint à l'équipage. En somme, on pourrait dresser une nomenclature de l'humanité selon la couleur. Le vert africain du petit matin, les courbes immaculées du couloir, l'orange des fous d'Allah de Cuba, sans oublier le bleu de nos dingueries. Pourquoi le bleu ? J'imagine qu'il y avait une raison. Rien n'est laissé au hasard dans les hôpitaux psychiatriques, hormis bien sûr les effets des médocs. Quelqu'un avait donc tranché en faveur du bleu, un jour, pour une bonne raison. À 7 heures du matin, une infirmière déboulait. « Bien dormi, monsieur Riwal ?» J'ai regardé les petits bonhommes verts par la fenêtre. Tant mieux, tant mieux. Elle approuvait, tout en relevant ma manche pour sa ponction de rouge. On s'entendait super, cette connasse de Blanche et moi. Jamais de dispute à propos de rien, pas même du réel. Ça m'emmerdait quand même un brin, je sais pas. Tout foutait le camp, décidément, puisque le réel aussi en perdait de sa polémique. Et bientôt, je pressentais, il en deviendrait tout à fait emmerdant, radicalement contestable.
C'était lu et approuvé. Ce soir, nous avons lu pour vous En route vers le clochard aux éditions Atalia, édition qui, par ailleurs, met en ligne tous les textes publiés gratuitement. Ils sont téléchargeables et lisibles sur Internet. C'est sur leur site atalia.fr.
Si vous avez des suggestions quant au sens du titre,
En route vers le clochard,
n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le blog. Pour nous éclairer.
Et puis, notre blog, alors, du coup, c'est lu et approuvé, sans accent, tout attaché en petit, .noblogs.org, noblogs.org. Et donc, vous y trouverez les podcasts, donc le podcast de cette émission, et puis les podcasts de toutes les précédentes également. Et voilà, et si vous souhaitez nous contacter, tu as donné l'adresse déjà ? Non. Lu et approuvé, tout attaché en minuscule, @guyade.org. Et voilà, tout a été dit. Si vous souhaitez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous